Culture sans frontières.
Anna Kubishta.
Comme promis, on se retrouve donc pour la culture après ce flash info et on continue avec la rubrique culturelle, un peu plus littéraire que d'ordinaire. En janvier 2009, nous avions rencontré l'écrivaine Anne de la Flotte Medevi, installée à Prague depuis 17 ans et qui venait de sortir son premier roman, La relieuse du guet, paru aux éditions Gaïa. Le mois de septembre dernier, elle a publié son deuxième opus, intitulé Fugue, toujours publié chez Gaïa. Je l'ai rencontrée pour évoquer l'histoire et le processus d'écriture de Fugue.
C'est une réflexion sur la musique, enfin au départ c'est comme ça que je le voulais, et ça passe par le biais de l'histoire de cette femme qui s'appelle Clotilde et qui va perdre la voix un jour de rentrée scolaire, un jour où elle va déposer ses quatre enfants, dont les deux petits dont c'est la première rentrée scolaire. Le temps du petit âge, de l'âge tendre de sa progéniture est terminé, donc c'est une étape évidemment nouvelle dont elle ne sait pas vraiment ce qu'elle doit faire. Elle sait que c'est là, mais elle ne sait pas vraiment quoi en faire. On imagine que sa deuxième fille, Madeleine, va être une petite provocatrice de destin, c'est-à-dire qu'elle va fuguer, et sa mère va devoir partir à sa recherche. Dans cette quête de l'enfant, elle va beaucoup appeler cet enfant, et l'angoisse aidant, elle va perdre la voix, elle va retrouver l'enfant, et puis se rendre compte que sa voix qui va bien, mais sa voix a disparu entre-temps. Et le livre, c'est l'histoire de la reconquête de sa voix.
Un biais paradoxal, quand même.
Oui, qui va passer par... Donc c'est une musicienne, une excellente musicienne amateur, mais qui, elle, aurait très bien pu franchir le cap et devenir professionnelle, puisqu'elle a fait toutes les études pour ça, et puis la vie l'a emmenée autre part. Mais la musique est toujours restée un langage... très familier, hein, quotidien pour elle, mais amateur, de pratiquer de façon amateur. Elle va réussir au bout d'un certain temps de rééducation à refaire vibrer ses cordes vocales, mais elle va être atteinte on va découvrir qu'elle est atteinte d'une maladie qui s'appelle dysphonie spasmodique. Et donc son élocution est très très imparfaite et complètement empêchée puisqu'elle doit réguler sa respiration.
Et puis c'est aussi une voix qui finalement n'a plus vraiment d'âme. C'est un peu ce qu'on découvre au fil du temps quand on voit comment elle réapprend à parler. Finalement, tu dis que cette voix n'a pas d'âme en fait d'une certaine façon.
Non, parce que la voix est tellement, pour la produire de façon, je dirais, mécanique, on doit être tellement concentré sur le processus d'élocution qu'en fait on n'a pas le temps d'investir la voix d'émotion et puis on doit se reprendre après quelques syllabes très courtes émises à grand renfort de respiration. Il faut reprendre son souffle et donc il n'y a pas de conversation possible. Si on perd l'usage instinctif de la voix, pour retrouver le chemin et refaire fonctionner les muscles du larynx, le cerveau, l'ouïe, le diaphragme, etc. C'est très 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 compliqué, c'est un mécanisme très très complexe. Il faut le retrouver de façon consciente. Voilà, et ça m'intéressait, que cette parole soit si évidente. Oui, à part que le jour où on la perd, c'est très très difficile de la faire réémerger.
Tu avais lu des articles, par exemple, sur des cas similaires, justement, de personnes qui ont perdu la voix suite à un choc psychologique, par exemple? C'est quelque chose qui peut arriver?
Oui, tout à fait. Alors, j'ai fait relire Fugue par un orthophoniste, donc ce que je dis est tout à fait crédible, et cette maladie, dysphonie spasmodique, elle existe. Par contre, ce qui est peut-être un peu plus difficile à avaler d'un point de vue professionnel, mais encore une fois, ça passe, parce qu'on ne sait pas... pourquoi la dysphonie spasmodique intervient chez un individu. Souvent, on ne comprend pas pourquoi elle arrive. Alors, la faculté que je prête à Clotilde si elle ne peut pas parler de façon cohérente, ou plutôt satisfaisante, qu'elle puisse chanter divinement, ça, je l'emprunte plutôt au bégaiement. On sait que les gens qui bégaient vont pouvoir chanter de façon fluide. Selon l'orthophoniste, ça peut arriver, puisque de toute façon, cette maladie de dysphonie est mal connue.
Ce roman s'appelle Fugue, donc évidemment tout tourne autour du jeu de mots finalement, puisque c'est le début de l'intrigue, hein, c'est sa fille Madeleine qui est un peu sauvage en effet, qui fugue, mais également la fugue, donc c'est un terme musical. Et puis, alors, troisième fugue évidemment qu'on peut voir, c'est finalement la fuite d'une certaine manière de Clotilde, donc de l'héroïne qui a perdu sa voix de la réalité dans laquelle elle vivait jusqu'à présent, c'est-à-dire d'une bonne mère, d'une bonne épouse, qui finalement a laissé tomber c'est en effet la musique. Elle fait voilà, elle fait l'école buissonnière aussi, mais elle fait l'école buissonnière de sa vie passée. Alors simplement pour ceux qui ne sauraient pas, est-ce que tu pourrais rappeler exactement ce que c'est que la fugue en musique et comment est-ce que tu l'as articulée justement dans ton roman, et donc évidemment me parler de l'importance de la musique justement dans ce roman, puisqu'en effet c'est un portrait de femme, mais aussi un roman sur la musique.
Alors la fugue, c'est d'abord la fugue de Madeleine, effectivement, puis après il y a la, évidemment la référence à ce mode musical qui est la fugue. La fugue, c'est un thème musical qui est décliné tout au long d'une pièce, avec des passages qui se répondent. Voilà, le second thème étant une réponse au premier, etc. Donc il y a toujours cette idée d'écoute, d'exigence musicale. Il n'y a pas de musique s'il n'y a pas d'écoute. C'est pas la peine qu'il y ait une émission musicale s'il n'y a personne pour recevoir le message à l'autre bout. Et mon histoire, elle est aussi là-dessus, sur l'écoute. Et dans le mode musical même de la fugue, on trouve dans sa structure même ce petit jeu d'écho et de répons.
Et finalement, on peut dire que, alors là, ce serait pour paraphraser finalement la dernière pièce de Bach, l'art de la fugue, elle va y exceller finalement, Clotilde, dans cet art de la fugue, puisqu'elle va se faire en fait une toute autre vie. Et donc, ça c'est le deuxième pendant de ce livre, hein, c'est finalement, en effet, ce portrait de femme. Alors en effet, il y avait déjà ce portrait de femme dans La relieuse du guet, qui est également une femme très radicale. Elle fait un choix radical, en tout cas, on en avait parlé l'an dernier, en janvier 2009. Elle fait un choix radical puisqu'elle quitte tout pour devenir relieuse, dans une carrière brillante. Et finalement, Clotilde fait ce genre de choix radical sans le vouloir, puisque c'est les conséquences de cette maladie. Mais ça l'arrange bien, finalement.
Je m'en rends compte maintenant, des points communs peut-être entre Clotilde et Mathilde, d'abord des noms en Hilde. Mais en fait, je sais pas jusqu'où c'est voulu. Mathilde, je l'ai choisi vraiment sur la base étymologique du prénom. Mais Clotilde, j'ai la silhouette en tête d'une femme que j'ai croisée à Prague il y a très longtemps, qui s'appelait Clotilde, qui était une jeune actrice française, une très belle femme, très fine, quelque chose d'un peu fragile, et en même temps de personnalité très forte. Et cette, voilà, donc et comme j'aime décidément les prénoms en Hilde, je me suis pas fait suer, je l'ai gardé. Je me rends compte qu'elles sont toutes les deux, en fait, elles ont des points communs dans le sens où elles sont toutes les deux, alors tu disais radicales. Je sais pas si elles sont radicales. En tout cas, elles sont tenaces, mais c'est pas des violentes et des hystériques. C'est des calmes, des déterminées, mais doucement, sans aucune. Il me semble, enfin, en tout cas, je voudrais pas qu'elles soient violentes. Je crois pas qu'elles aient de la violence.
Non, elles le sont pas. Et puis ton écriture, de toutes les façons, empêche pour moi toute forme de violence d'une certaine façon, parce que c'est toujours une écriture très feutrée d'une certaine façon. Enfin, c'est ce que moi je ressens en ayant lu La relieuse du guet et Fugue.
Il y a une grande douceur chez ces femmes, un petit côté laborieux. un petit côté laborieux, beaucoup de douceur et de détermination, oui, quand même. Donc ça, elles ont ça en commun, certainement. Alors, je dis détermination parce que c'est joli. On pourrait dire qu'elles sont têtues. elles sont entêtées d'une certaine façon. Clotilde, elle s'entête, mais c'est parce qu'elle sait que, enfin, je sais pas employer des grands mots, mais oui, que sa vie en dépend, que toute la qualité de ce que sa vie sera dépend de ce moment-là, qui a été provoqué par sa fille, je rappelle, ce qui est très important symboliquement. Je ne sais pas comment tu l'as lu, mais je me rends compte que j'aimerais bien que les gens le lisent un peu comme on lit un conte et qu'on lui accorde une valeur de fable. Parce que parfois je me dis, oui, Clotilde, elle est belle, elle a une belle voix, ses enfants sont beaux, ils sont pas malades, ils n'ont jamais le nez qui coule, Vincent est super beau. Alors moi, oui, j'assume, il faut que j'assume, je le veux comme ça. Je le veux comme ça. D'abord, je voulais avoir la paix pour me concentrer sur le lien à la musique. Et donc, il fallait pas trop que j'empêtre la vie quotidienne comme ça. Mais je veux qu'il y ait cette espèce de sublimation, comme ça, et puis de valeur de conte.
Alors ça, c'est intéressant que tu me dises ça, parce que, alors, C'est peut-être mes projections personnelles, totalement. Hein. Que ce soit pour la relieuse ou fugue, j'ai toujours l'impression qu'il y a quelque chose, dans un sens très positif, de médiéval dans tes romans. Alors, j'allais dire que c'est déjà par les prénoms Mathilde, Clotilde, pour moi c'est des reines. Hein, ça, enfin voilà, je pense à la reine Mathilde, mais Clotilde, il y a dû en avoir aussi des reines. Je pense aux personnages qui apparaissent dans Fugue, il y a cette espèce de fou du village qui me fait penser... Un Baptiste qui est un peu le fou du village. Moi, il me fait penser justement à cette espèce de fou de la cathédrale, voilà. Et puis bon, évidemment, ton roman se passe en Bourgogne, l'autre se passait également en Dordogne. C'est des régions très historiques et très ancrées aussi dans le médiéval. Moi, je pense à la romande tout de suite. Et même si c'est pas décrit, même si on le voit pas forcément, en même temps, elle chante dans une église ou dans une abbaye, j'ai toujours l'impression que toute cette espèce d'atmosphère, qui est pour moi médiévisante, mais c'est peut-être pas du tout ce que t'as voulu mettre, est très présente. Je pense même à son amie Alice, qui est herboriste, enfin botaniste, mais finalement qui tient un magasin avec plein de plantes. C'est très étrange, en fait. Et le fait que tu parles de contes, ça correspond à cette image que moi, en tout cas, j'ai eue en tant que lectrice.
Ouais, je sais pas quoi faire encore de ça, je sais pas si j'arrive à le faire, mais je sais que c'est ce que j'aimerais faire. Moi, c'est ce que j'aime peut-être aussi dans la littérature. J'aime bien quand un roman m'emmène ailleurs, voilà, m'emmène un peu dans une autre dimension. Si je veux lire des choses très contemporaines, très précises, alors je lis des essais de sociologues ou des ouvrages historiques, ce que je fais très souvent parce que j'aime ça m'intéresse beaucoup. Mais quand on est... Moi, j'aime beaucoup Sylvie Germain. Alors, je sais pas du tout de copier. J'aimerais bien... Mais c'est ce qui m'intéresse. Et quand j'écris, moi, je suis partie dans un monde que je veux pas ramener ici, maintenant. Ça m'intéresse pas beaucoup. Et quand j'écris, moi, je suis bien s'il y a une part de conte, voilà, une espèce d'atmosphère comme ça, de conte, une distance.
Et juste pour terminer, alors, pareil que finalement pour La Relieuse du Guet, tu as une écriture très sensuelle, je trouve. En tout cas, tu donnes beaucoup d'importance au sens. En tout cas, c'est l'impression que moi j'ai en lisant. Moi, je pense évidemment pour La Relieuse du Guet au toucher, puisque je pense aux livres, aux couvertures, peut-être aussi l'odorat, hein, parce qu'il y a l'odeur du cuir. Et puis évidemment, pour Fugue, c'est Louis.
Si on veut avoir un esprit ouvert, curieux, on peut peut-être commencer par bien regarder, par bien écouter. Ses proches, les autres. Là, je pense que la curiosité intellectuelle, même la plus abstraite, elle commence peut-être déjà par ça, par regarder, observer, sentir son environnement proche, son milieu urbain ou voilà, ou autre, campagnard, je ne sais pas, mais les autres, c'est... Oui, commençons par nos sens, commençons par regarder, toucher et entendre ce qui se passe à côté de nous. Mais ça participe, c'est le début d'une curiosité qui donne tout son sens à, je sais pas, à la vie, à une vie qu'on peut avoir envie de mener. Oui, éveillée, simplement.